Loire FM, aux portes du Dauphiné, 107. L'invité.
Jusqu'à la semaine dernière, le Secours catholique a organisé un tour de France pour aller à la rencontre des citoyens. Des bus aux couleurs du Secours catholique se sont arrêtés dans différentes villes pour interpeller sur les préjugés et la place de chacun dans notre société. À Lyon, cette journée Stop aux préjugés a eu lieu le 8 avril. On va revenir un petit peu en détail sur cette opération d'envergure. Avec vous, Pierre Keller, vous êtes le délégué du Rhône du Secours catholique. Bonjour.
Bonjour.
Alors déjà, quel bilan vous dressez avec le recul? Comment s'est passée cette opération pour nous à Lyon?
Eh bien, ça s'est très bien passé. C'était une journée très joyeuse, très festive, qui nous a permis d'aller à la rencontre du grand public, puisqu'on était place Pradel, à côté de l'hôtel de ville, où il y a énormément de passages, et en plus, il faisait un temps magnifique. Donc on a eu toute la journée beaucoup de rencontres avec les gens qui passaient par là, et puis beaucoup d'acteurs du Secours catholique qui étaient mobilisés, aussi bien des bénévoles que des salariés et surtout des personnes qui font partie de nos groupes, de personnes en précarité qui avaient préparé cette journée pour aussi témoigner de la réalité de ce qu'ils vivent et voilà, exprimer le fait que les préjugés qu'ils peuvent parfois entendre vis-à-vis des personnes en précarité, ça fait mal quand on vit les choses.
C'était beaucoup plus des curieux qui étaient venus, qui se demandaient un petit peu ce que vous faisiez là?
Tout à fait, oui, des personnes qui étaient de passage. Quelques-uns aussi qui sont venus parce qu'ils en avaient entendu parler, mais surtout des personnes qui étaient de passage et beaucoup de personnes qui se sont arrêtées et qui nous ont remercié de nous efforcer de communiquer aussi un message positif, parce que le but n'est pas de montrer du doigt, le but c'est de dire que la fraternité, elle passe aussi par une attention aux personnes et à la réalité de ce qu'elles vivent. Et effectivement, parfois on peut entendre des choses qui font mal. Les pauvres seraient des assistés. On vit bien avec le RSA. Les pauvres même sont des fraudeurs. Et en fait, les personnes qui vivent ces situations, elles sont, dans l'immense majorité des cas, c'est pas du tout ça qu'elles vivent. Elles ont besoin aussi qu'on entende ce qu'elles vivent. Voilà. Et donc ça, on a pu l'exprimer. Et c'est les personnes elles-mêmes qui l'ont exprimé. Et les passants étaient contents d'entendre aussi que le message de fraternité, il se vit aussi dans notre pays. Après, c'était assez amusant de voir beaucoup de gens s'arrêter et nous dire « Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait pas pour qui on va voter, on ne sait pas si on va voter. » Mais ce n'était pas spécialement notre sujet. Ok, on est dans un contexte de campagne électorale. Mais nous, c'était surtout de dire « Non, les plus démunis n'ont pas la belle vie dans ce pays. » Et c'est important de continuer à mettre en œuvre des politiques de solidarité, comme on l'a exprimé aussi dans des collectifs associatifs comme Solidarité 2017, etc.
D'où ils viennent ces préjugés? Alors c'est peut-être un peu compliqué comme question, mais à votre avis, ou peut-être vous qui avez rencontré un petit peu des gens qui pouvaient s'interroger, se poser des questions, à votre avis, d'où ça vient? Quelle est la source de ces préjugés?
Alors, tous les journalistes me posent la même question, c'est affreux. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. D'abord, il y a 8 millions de personnes en France qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est beaucoup. Le seuil de pauvreté, donc il y a à peu près 1 000 euros par mois. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'allais dire, le niveau de l'eau monte. Le coût de la vie pour les personnes en précarité ne cesse d'augmenter plus vite que pour les riches, entre guillemets. Ce qu'on appelle le reste à vivre, c'est l'argent qui reste disponible une fois qu'on a dépensé toutes les dépenses incompressibles de logement, d'électricité, d'assurance, je ne sais quoi, il diminue. Donc en fait, il y a beaucoup de personnes, bien au-delà même des 8 millions, qui vivent en fait cette situation. Les fins de mois sont difficiles, voire inextricables. Il y a peut-être une angoisse, par exemple, on entend aussi parler des paysans, on entend parler... Voilà. Il y a une angoisse, et quand vous êtes en difficulté, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent un coupable. Bon, alors on ne va pas rentrer dans ces subtilités, mais il y a une crainte globale. Et après, je pense qu'il y a aussi des discours qui sont des discours stigmatisants, qui pointent du doigt telle ou telle catégorie de la population, qui emploient le mot d'assisté ou d'assistanat de façon injuste et non fondée. Nous, les personnes qu'on voit dans nos groupes, elles disent clairement, nous, on ne veut pas être des assistés. Et d'ailleurs, à tel point que si vous prenez des droits sociaux comme le RSA, ou par exemple la prime d'activité, ex-RSA activité, la prime d'activité en 2015, 65% des personnes qui y avaient droit ne le sollicitaient pas. C'est-à-dire que c'est bien tout le contraire qu'on constate. C'est pas que les gens sont des assistés, c'est que les gens ne veulent pas être des assistés parce que justement ça heurte pour une part leur dignité, ou que c'est trop compliqué d'accéder aux droits sociaux. Il y a aussi des aspects de complication. Et donc en fait c'est tout le contraire. Pour revenir à votre question, pourquoi, d'où viennent ces préjugés? Je pense qu'ils viennent, oui, pour beaucoup d'une peur, pour beaucoup aussi de certains discours ambiants qui montrent du doigt des choses qu'on ne connaît pas. On pourrait parler aussi des migrants. Enfin, quand vous interrogez les gens, c'est très amusant. Certaines personnes trouvent qu'il y a peut-être trop de migrants dans ce pays. Bon, après, vous leur demandez, mais est-ce que toi, tu en connais personnellement ? Ah oui, je connais telle famille. Ah, mais eux, c'est pas pareil. Eux, ils sont sympas. Ah bon ? En fait, ceux qu'on connaît sont sympas et ceux qu'on connaît pas, Donc non, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, en France, les migrants, les demandeurs d'asile, etc., sont parmi les personnes les plus en précarité. Ils ont peu de droits. Même quand vous avez obtenu votre statut de réfugié, il faut 5 ans avant d'avoir droit au RSA. Donc c'est tout sauf des assistés. Donc voilà, et donc on dit des choses qui ne correspondent pas à la réalité et ça fait mal aux personnes. Voilà. Il y a un risque de désagrégation de notre cohésion sociale. Et nous, c'est ça qu'on veut mettre en avant. On a besoin d'unité nationale, on a besoin de fraternité et non pas de dresser des murs de partout entre les personnes.
Quels sont les risques de tels préjugés répétés sur des populations peut-être déjà affaiblies effectivement par un manque de moyens, par un manque de possibilités ?
Eh bien, les risques, on les voit bien, c'est que les personnes renoncent à accéder à leurs droits, les personnes renoncent à se soigner et donc en fait, du coup, deviennent plus gravement malades. Je peux vous donner des exemples très concrets de personnes que je connais personnellement. Au final, c'est une absurdité parce que à l'évidence, une maladie grave va coûter beaucoup plus cher à la collectivité et va finir par être soignée que des soins courants. Enfin, voilà. On a fait un sondage à l'occasion de cette campagne qui croit encore que les démunis ont la belle vie. Et en fait, les Français, c'est pour ça que moi je suis quand même fondamentalement optimiste sur les Français, c'est qu'en fait, mais ils sont paradoxaux. C'est-à-dire, 81% des Français disent « la pauvreté devrait être décrétée grande cause nationale ». 94% des Français disent « il y a trop d'inégalités en France ». Les gens sont conscients du chômage. 61% des Français disent « les Français ont trop de préjugés sur les pauvres ». Très bien. Mais 54% disent « le système social en place favorise l'assistanat ». Mais quand même 61% sont prêts à accompagner une personne qui est au chômage. En fait, il y a un désir de solidarité. Il y a une conscience qu'il y a de la pauvreté dans notre pays, il y a des inégalités, mais il y a encore un travail à faire pour essayer de clarifier la réalité, mieux expliquer la réalité et ne pas faire de ces préjugés une cause de clivage ou de voilà.
Vous le disiez, on est en plein climat présidentiel. Est-ce que c'est volontaire d'organiser cette opération à ce moment-là ou est-ce que c'est un projet qui était né déjà dans l'esprit du Secours catholique bien avant ?
On est dans toute une campagne sur 3 ans, 2016-2018, de plaidoyer sur différents axes, et notamment celui de la cohésion sociale, de la refondation de la protection sociale, et avec aussi ce sujet des préjugés. Et donc effectivement, on a organisé un peu la campagne en tenant compte des échéances électorales, mais on est sur un travail de 3 ans, donc on est plutôt sur des questions de moyen à long terme, oui, tout à fait.
On va peut-être juste revenir un petit peu quand même sur cette journée, pour ceux qui n'ont pas pu être là. Qu'est-ce qui s'est passé finalement ? Il y avait pas mal de choses de proposer, ça se voulait quelque chose de très festif, de très convivial.
Voilà, alors c'était très festif, très convivial. On avait une flash mob qu'on a fait à 3h dans la journée, où on était une centaine à danser, là qui a beaucoup plu au public. Il y avait des slameurs aussi qui ont slamé un peu sur le sujet du jour, du désir de cohésion sociale, de la difficulté de la pauvreté et des préjugés. On a eu une batucada, on a eu un chanteur. Donc en fait, tout ça, c'était très rythmé, mais et fondamentalement, on a aussi proposé aux personnes qui étaient d'accord de remplir un questionnaire sur les préjugés. Ce questionnaire, il va être exploité et utilisé dans le cadre de notre rapport annuel, puisque tous les ans, le Secours catholique fait un rapport statistique qui reprend un peu l'ensemble des données qu'on peut collecter par rapport aux 1 500 000 personnes qu'on rencontre chaque année et qui, pour mémoire, ont en moyenne pour ressources aux alentours de 500-550 euros par mois. Donc vous voyez qu'on est à la moitié du seuil de pauvreté, donc c'est beaucoup moins, donc il y a de la grande pauvreté. Donc il y avait ces questionnaires et puis il y avait aussi des hommes sandwich et des femmes sandwich et notamment des personnes qui connaissent bien ces situations de précarité. Et une personne présentait le faux, par exemple, les pauvres ont de la chance, ils ne payent pas d'impôts. Ben, c'est faux. Voilà, ça c'est un préjugé parce que la réalité c'est que tout le monde paye la TVA, que la TVA c'est 50% des recettes fiscales en France. Et que la TVA payée par un pauvre, ça représente 11% de ses revenus, alors que la TVA payée par un Russe, ça représente 6% de ses revenus. Donc on voit bien que, y compris dans la fiscalité réelle, il y a des choses à réfléchir en termes d'inégalité. Alors les personnes qui sont concernées, elles peuvent vous l'expliquer très bien.
Vous parliez d'un questionnaire, finalement il s'agissait de demander quoi aux gens? Est-ce de revenir sur leurs propres préjugés ou plus de leur voir un petit peu leur rapport au Secours catholique?
Non, c'était leur propre rapport aux préjugés. D'après vous, d'où viennent les préjugés? Donc c'était un QCM, enfin avec des propositions de réponse. Laquelle de ces affirmations sur les pauvres vous choque? Les pauvres sont des assistés, les pauvres sont des fraudeurs, les pauvres ne savent pas gérer leur budget. Les pauvres font des enfants pour toucher les allocations familiales. Moi, ce que je constate au quotidien dans toutes nos équipes, parmi nos 1000 bénévoles là, dans le Rhône, c'est que s'il y a bien des gens experts de la gestion de budget, c'est les pauvres, et pour cause. 1 euro, ils savent ce que c'est. Quand, après avoir payé toutes vos charges fixes, il vous reste 2 euros par jour, tous les jours, pour manger et vous habiller, je peux vous dire que gérer un budget, c'est clair, vous êtes un expert. Vous avez des combines. C'est clair que les pauvres savent gérer leur budget. Mais vous trouvez toujours des exceptions à tout ce qu'on peut dire. Mais la réalité, c'est quand même c'est comme ça. Voilà. Donc des questions comme ça. D'après vous, quels sont les préjugés pour les pauvres, les vôtres, ceux de l'ensemble de la société? Et que faudrait-il faire face aux préjugés, etc.
Alors justement, que faudrait-il faire? Quelles sont peut-être vos préconisations? Comment est-ce qu'on peut agir au quotidien simplement pour lutter contre ces préjugés?
J'allais dire, je n'en ai qu'une, c'est de rencontrer les personnes concernées, de parler avec elles, de ne pas rester derrière sa télé ou son Facebook. Parce que c'est en rencontrant concrètement les personnes. Alors il y a 1000 façons de rencontrer les personnes, mais en général c'est de rejoindre des associations. Alors ça peut être le Secours catholique, ça peut être une autre, ça peut avoir d'importance, mais en tout cas, rencontrer les personnes dans une situation où vous pouvez parler avec elles, d'égal à égal, pas au-dessus d'elles, non, avec elles. Donc ça c'est vraiment le fondement de notre action, c'est d'agir avec les personnes dans des groupes, en permettant aux personnes de prendre la parole et je dirais de vraiment être actrices de leur propre mobilisation et de leur capacité à améliorer leur situation, ce qu'on appelle le pouvoir d'agir. C'est vraiment le fondement de notre action.
À Lyon, le public a pu donner son avis via un mur d'expression ou via aussi un vidéomaton. Ouais. Est-ce que vous avez déjà eu le temps de voir un petit peu les retours qu'il y a eu ou pas encore?
Alors on n'en est pas encore tout à fait là parce qu'on n'a pas eu encore le temps de digérer tout ça. On a déjà pas mal tweeté le 8 avril. Donc il y a des interviews, il y a des reportages, ça permet d'avoir déjà des éléments. On avait aussi un chamboule-tout, vous pouviez écrire vous-même votre... Parce qu'on a tous des préjugés, donc voilà, moi j'ai peut-être, je sais pas quoi, des préjugés sur les psys ou même sur les journalistes, j'en sais rien. Donc je pouvais écrire mon préjugé sur mon bout de papier, le scotcher sur une boîte de conserve et le dégommer avec le chamboule-tout, donc ça c'était sympa. Il y avait un jeu de loi géant aussi, on a même une appli chasse aux préjugés, stop aux préjugés, que je vous encourage à télécharger. Ceci pour dire qu'on est dans quelque chose qui n'est pas triste. S'asseoir avec les personnes en précarité pour améliorer ensemble la situation, il n'y a pas de raison que ça soit triste, il faut que ça soit joyeux. Voilà, chacun a envie d'une vie joyeuse.
C'est ça que vous appelez la révolution fraternelle à laquelle appelle le Secours catholique?
Exactement. La révolution, c'est qu'il y a des choses à changer. C'est pas juste de faire tout comme avant. Et fraternel, c'est qu'on le fait ensemble et qu'on le fait joyeusement. Voilà.
Vous parlez d'une application, effectivement, c'est une sorte de, pour ceux qui connaissent, une sorte de Pokémon Go avec des petits préjugés géolocalisés qu'il fallait pour mieux les comprendre. Est-ce que cette application, elle était très ponctuelle ou est-ce qu'elle a vocation à peut-être à se pérenniser?
Écoutez, en tout cas, elle est là. Moi, je reçois régulièrement des notifications me disant « il faut que tu reprennes la chasse aux préjugés ». Donc non, l'application, elle est là dans le cadre aussi de notre campagne 2016-2018, donc je pense qu'elle va rester là un petit moment. On a 2 camions qui ont fait le Tour de France, comme vous disiez, en démarrant. Bon, bah, les camions, ils vont aller faire autre chose, ils sont pas à nous, mais par contre, l'application est toujours là.
Vous parlez du sondage que vous aviez commandé, qui s'appelle « Qui croit encore que les plus démunis ont la belle vie ?» Et dans ce sondage, on lit que presque 1 Français sur 2 estime que la lutte contre la pauvreté est de la responsabilité de l'ensemble des citoyens, et donc pas seulement des pouvoirs publics. Comment est-ce que vous réagissez finalement à ce chiffre? Est-ce que l'engagement citoyen actuel est pour vous à la hauteur de ce chiffre-là? Est-ce qu'il y a bien 1 Français sur 2 qui s'engage pour essayer de lutter contre cette pauvreté?
Alors 1 Français sur 2, c'est peut-être beaucoup, mais moi je suis très frappé du très fort engagement et désir d'engagement des jeunes. Pour illustration, avec nous le 8 avril, il y avait l'association Terre d'Ancrage. Terre d'Ancrage, c'est une toute jeune association d'étudiants de l'école normale. Je ne vais pas dire de bêtises parce que je ne les connais pas si bien que ça, mais je crois qu'en octobre, l'association n'existait pas. Je crois qu'ils sont 120. Je crois qu'ils viennent un peu soutenir les migrants par de l'hébergement, mais aussi par toutes sortes d'autres actions un peu festives, conviviales. Et en particulier là, en fait, avec des personnes de plusieurs nationalités qui connaissent et qui aiment bien cuisiner, eh bien, ils ont préparé un déjeuner saveur du monde, là. Alors, il y avait des personnes de plusieurs nationalités qui ont préparé des choses de leur pays. Je crois qu'il y avait un Burkinabé, il y avait un Irakien ou une Irakienne, et j'ai pas fait le tour. Et ils ont fait à manger pour une centaine de personnes. Donc, tout ça, ils ont fait eux-mêmes le samedi matin, et ça nous a fait un beau temps à midi. Et voilà, et ça s'est goupillé, mais dans les trois jours qui ont précédé le 8 avril. Et c'est des gens qui aussi sont, pour certains, bénévoles dans notre accueil migrant du Secours catholique à Lyon. Il y a beaucoup de personnes qui s'engagent face à la réalité de la pauvreté. Il n'y a pas que les migrants, loin s'en faut. Je dirais, à chaque fois qu'on propose des choses concrètes, et c'est pas si difficile que ça de mobiliser des bénévoles. Après, c'est sûr que pour les personnes en activité professionnelle, il faut aussi avoir adapté les activités pour leur permettre de s'engager, mais ils n'attendent que ça. Donc je ne suis pas inquiet là-dessus, et au contraire, moi j'étais très frappé le 8 avril, le nombre de gens qui nous disaient merci d'être là, merci de faire ce que vous faites, et qui nous encourageaient.
Quelles sont peut-être les prochaines actualités? Qu'est-ce que le Secours catholique du Rhône a prévu pour ces prochains mois? Comment est-ce qu'on peut vous soutenir peut-être aussi?
Pour faire une réponse complète à ça, il faut venir à un de nos accueils collectifs des nouveaux bénévoles. Là, il suffit de téléphoner au standard. Nos prochaines activités, il y en a beaucoup. On prépare une soirée table ronde. On est en partenariat avec le CCFD, Oxfam et une quatrième association sur une plateforme qui s'appelle Solidarité 2017, où on a fait 15 propositions pour les présidentielles. Vous pouvez aller voir les réponses des candidats sur le site solidarité2017.org. Il y a des activités traditionnelles. On va partir en vacances avec des familles dans les Pyrénées. Il y a tout un groupe d'une cinquantaine de personnes qui va partir une semaine, sachant qu'on est quand même très frappé encore du nombre de personnes qui n'ont jamais eu la possibilité de partir en vacances. C'est clair que pour ces familles-là, partir en famille une semaine, c'est une expérience pour eux qui est très importante. Donc on continue à soutenir les familles de cette manière-là. Prochainement, on va ouvrir, si tout va bien, à Vaux-en-Velin, un nouveau lieu d'accueil en partenariat avec les apprentis d'Auteuil, la maison des familles de Vaux-en-Velin, qui sera un lieu de soutien à la parentalité pour les papas, les mamans, les enfants, chacun de leur côté, tous ensemble, qui sont voilà, dans des situations de précarité. Ça, c'est une belle chose. Ça permet de signaler le fait que le Secours catholique il travaille d'une manière générale, aussi souvent que possible, en lien, en partenariat avec d'autres. Par exemple, le 8 avril, il y avait beaucoup de personnes qui venaient de notre groupe de Bron, de l'Étape, où on est en partenariat avec le centre social Gérard Philippe, là-bas. Donc des personnes voilà, qui sont, par exemple, au RSA, dans des processus d'intégration sociale, de socialisation, et qui ont beaucoup travaillé sur comment on vit, par exemple en étant au RSA, comment on vit tout notre parcours de lien avec les services sociaux, comment on vit la facilité ou la difficulté à trouver un travail. Et donc là, ils ont beaucoup de choses à dire, et à partir de ce qu'ils disent, on peut construire des propositions pour que cette insertion sociale et professionnelle soit facilitée pour tous. Voilà le genre d'action qu'on poursuit. On a aussi une université d'été. Alors, il y a un gros groupe de jeunes, et puis il y a également un volet université d'été qu'on appelle rencontre fraternelle, où voilà, des personnes justement qui ont travaillé sur cette mobilisation du 8 avril vont continuer à se réunir, cette fois-ci au niveau national. Les choses continuent comme ça.
Plein de belles choses donc à venir pour le Secours catholique. Merci beaucoup Pierre Keller, on rappelle que vous êtes donc le délégué du Rhône du Secours catholique.
Merci à vous.